frères et sœurs, unis par la foi au Christ mort et ressuscité, nous entrons dans cette semaine sainte comme en poussant la porte de l'éternité. Voici que s'accomplit ce que les siècles ont espéré. Dieu a tenu sa promesse. Il a envoyé son Fils qui s'est livré à la mort pour nous tirer de notre propre mort. Il est vivant à jamais pour que nous aussi, nous puissions vivre. Nous allons nous retrouver chaque jour de cette semaine autour du récit évangélique qui nous relate ce qu'a été la dernière semaine sur la terre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans l'accomplissement de sa mission de salut. Cette année, étant l'année C selon le lectionnaire que nous suivons, nous camperons essentiellement dans l'évangile selon Luc. Nous tenterons de mettre en évidence les particularités de Luc sur la passion de notre Seigneur, car nous remarquons qu'il y a des éléments qui sont propres à Luc, à lui tout seul. Rien ne pourra cependant nous empêcher de faire quelques incursions dans les autres évangiles lorsque cela sera nécessaire. Nous essayerons de suivre le Seigneur dans cette semaine dernière, dans la mesure du possible. Nous dégageons la signification théologique de certains actes et paroles. Nous relèverons aussi les implications spirituelles et éthiques qui en découlent. Dans tous les cas, nous transformerons tout cela en prière offerte à notre Dieu. Prières, lectures et cantiques, des intermèdes musicaux seront une invitation à la méditation, au silence. Et ils constitueront le menu de chaque jour. Chacun peut vivre cette semaine dans la méditation et la prière. Ceci n'est en rien limitatif. Vous pouvez aller au-delà de la proposition que je vous fais ici. Tout comme vous pouvez reprendre ce podcast et le réécouter quand bon vous semble. C'est un des côtés positifs de la technologie et des reliquats du confinement. Je dois aussi rappeler que tout en englobant les éléments dramatiques, la liturgie de la semaine sainte ne laisse pas la tristesse envahir la célébration, mais transparaît une douce reconnaissance, une action de grâce pour l'amour du Christ, et jusqu'au cri de victoire. À la place de la tristesse froide, monte une certaine chaleur et le chant d'une foi consciente d'être libérée par la croix. Car ne l'oublions pas, c'est avec le regard de la Pentecôte et de la Pâque qui ont déjà eu lieu dans l'histoire que nous contemplons a posteriori cette étape de la vie terrestre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous invite à chanter le premier cantique de louange à notre Sauveur et qui s'intitule « Ô Jésus, mon Sauveur ».
Puissance et l'honneur, les
Nous voulons entrer dans la célébration de ce grand mystère du salut en priant le psaume 22 que notre Seigneur a dit sur la croix. Prions. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai beau crier, le salut reste loin de moi. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit. Je ne trouve pas le repos. Pourtant, tu es le saint. Toi, tu habites les louanges d'Israël. En toi, nos pères ont espéré. Ils espéraient et tu les délivrais. Vers toi, ils criaient et ils étaient sauvés. Ils espéraient en toi et n'étaient pas confondus. Mais moi, je suis l'opprobre des humains, le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Leur bouche ricane, ils hochent la tête. Ils se remettent à Dieu, qu'il le délivre. Qu'il le délivre puisqu'il est son ami. Ne t'éloigne pas quand la détresse est proche. Quand il n'y a personne pour m'aider, une meute de chiens m'entoure. C'est le parti des méchants qui m'assiège. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je puis compter tous mes os. Eux me regardent. Ils m'observent. Ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, Seigneur, ne t'éloigne pas. Ma force, viens me défendre. Alors j'annoncerai ton nom à mes frères. Au sein de l'assemblée, je te louerai. Les confins de la terre se souviendront. Ils reviendront au Seigneur. Ils viendront et diront sa justice. Au peuple qui naîtra, ils annonceront ce qu'il a fait. Amen. En nous projetant dans le temps, ce dimanche-là à Jérusalem, les commentaires font bon train au sujet de Jésus de Nazareth, ses derniers miracles et surtout de l'extraordinaire et récente résurrection de Lazare. Les grands prêtres et les pharisiens sont en réunion et se disent « Si nous le laissons faire, nous tous croirons en lui ». La décision de faire mourir le Christ est prise. La croix est dressée dans les cœurs. Or, dans la foule, les pèlerins, nous sommes proches des fêtes pascales, arrivés de Béthanie à Jérusalem, annoncent avec un grand enthousiasme la venue imminente de Jésus. Jésus, lui, vient de quitter la maison de ses amis et s'avance à travers la campagne au milieu des vignes et des oliviers de la colline. Ses disciples l'entourent et semblent détendus et heureux. Il y a comme un vent de fête dans l'air. Arrivé à Bethphagée, le maître envoie chercher un ânon. Contrairement à toutes ses habitudes, il se décide à monter l'animal. Aussitôt, c'est une explosion de joie. Parmi les disciples, on acclame Jésus et comme il laisse faire, l'enthousiasme s'allume, ainsi qu'une traînée de poudre parmi ces hommes exubérants. Ils étendent leurs manteaux devant les pas de l'ânon. Ils chantent, ils courent, ils agitent des rameaux arrachés aux arbres. Des femmes, des enfants font des grands gestes de salut en criant « Hosanna !» Au sens premier, l'expression « Hosanna » signifie « Sauve donc !» comme dans le psaume 118, verset 25. Elle devient par la suite une acclamation. « Hosanna ! Hosanna ! » Alors quelques pharisiens s'approchent, profondément scandalisés, vexés et jaloux, disent à Jésus « Maître, rappelle donc les disciples à la raison. » Lui répondent un mot « Si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. On sent que la tension monte et les adversaires du Seigneur sont déterminés à en finir avec lui. Cela n'a que trop duré. Le petit cortège arrive au haut du cédron. D'un seul regard, Jésus embrasse toute la ville. Il s'émeut. C'est sa ville. Au milieu des cris de joie, il discerne dans un avenir tout proche l'épilogue humain de l'histoire de son peuple, à savoir la destruction complète de Jérusalem. Et alors, le Christ pleure. Si toi aussi, tu avais su en ce jour comment trouver la paix, mais maintenant cela t'est caché. Des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps de l'intervention de ton Dieu. Lorsque le Seigneur entre dans le temple, il est saisi d'une sainte colère et chasse les marchands. Il se met ensuite à enseigner et rencontre aussitôt l'hostilité de ses adversaires, qui sont les scribes, les pharisiens et les prêtres. Cette hostilité se traduit par des questions pièges, comme le témoigne le récit que nous relate Luc. Luc 20, 1 à 19.
Un de ces jours-là, Jésus enseignait le peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, avec les anciens, survinrent alors et lui dirent: « Dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses, ou qui t'a donné cette autorité ?» Il leur répondit: « Je vous poserai moi aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ?» Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il dira: « Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. » Alors, ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où ils venaient. Jésus leur dit: « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'ai fait ces choses. » Il se mit ensuite à dire cette parabole au peuple. Un homme planta une vigne, la loua à des vignerons, et quitta pour longtemps le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers le vigneron pour qu'il lui donne sa part de récolte de la vigne. Mais les vignerons le battirent, et leur renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent lui aussi, l'insultèrent et leur renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un troisième, mais ils le blessèrent aussi et le chassèrent. Le maître de la vigne se dit alors: « Que faire? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être en le voyant auront-ils du respect pour lui. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent: « Voilà l'héritier. Tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera mourir ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. En entendant cela, ils dirent: « Certainement pas. » Mais Jésus jeta les regards sur eux et dit: « Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Toute personne qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchèrent à l'arrêter au moment même, mais ils redoutaient la réaction du peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole.
Dieu saint, dès les temps anciens, tu as témoigné ta sollicitude à ton peuple, comme à une vigne choisie et précieuse. Mais quand tu es venu chez les tiens ne t'ont pas reçu. Nous t'en prions, garde-nous de toutes ces cités spirituelles. Donne-nous d'accueillir dans la foi celui qui est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Frères et sœurs, dans le récit que nous venons de lire, les opposants à Jésus ne veulent pas admettre l'autorité de Jésus, d'où leur question sur l'origine de son autorité. Jésus ne répond pas directement à leur question, mais il répond par une question embarrassante, dont la réponse, de toute manière, confondait les détracteurs de Jésus. Alors pour mettre en lumière leur mauvaise foi et leur haine, Jésus raconte cette parabole. En fait, Jésus ne dénonce pas la réticence de ses détracteurs, scribes et grands prêtres, mais leur vive et funeste opposition. En écoutant attentivement le Seigneur, il ne s'agit pas de la vigne dont il parle, ni du fruit de la vigne. Il est question ici de vignerons, c'est-à-dire ceux à qui la vigne a été confiée. Ce n'est même pas la compétence des vignerons qui est mise en cause ici. C'est bien de l'abus d'autorité sur la vigne. Ces responsables se comportent comme s'ils étaient propriétaires. Ils rejettent violemment tous les serviteurs du propriétaire. Bien plus encore, leur volonté de tuer le fils du propriétaire pour accaparer l'héritage est manifeste. Cela paraît totalement absurde. Sans aucun doute, les serviteurs évoquent les prophètes d'autrefois qui furent envoyés par Dieu mais insultés, persécutés, rejetés. Ainsi Jérémie, Amos, etc. Ensuite, le Fils même de Dieu est venu. La parabole souligne l'opposition tenace envers les envoyés de Dieu et annonce le crime envers le Fils de Dieu, à savoir Jésus-Christ lui-même. Dans cette parabole, Jésus en vient à parler du Fils de Dieu comme le représentant de l'autorité même de Dieu sur la terre. Mais au lieu d'un repentir comme l'on pourrait s'y attendre, l'attitude des vignerons devient criminelle. L'envoi du Fils vient donc se situer, mais différemment, à la suite des serviteurs. La parabole souligne cette persévérance de Dieu envers sa vigne. Malgré la dureté de cœur des vignerons, il n'a cessé d'envoyer ses serviteurs, y compris le Fils, qui est envoyé non pour sévir ou juger, mais toujours pour récolter. Jésus poursuit la réponse des grands prêtres, lesquels attendaient du propriétaire un jugement pour supprimer les mauvais gestionnaires de la vigne. Un changement aura bien lieu, mais il concerne en premier les chefs religieux de Jérusalem. L'image des bâtisseurs ignorants est des pierres évoquent le temple dans lequel se situe ce débat. Mauvais vignerons, les grands prêtres sont aussi de mauvais bâtisseurs, incapables de reconnaître la valeur d'une pierre qui n'a pas la forme voulue, mais qui pourtant est essentielle aux bâtisseurs. Jésus reprend ici un verset du psaume 117. Un chant acclamant la victoire de Dieu sur le peuple humilié. L'avènement du royaume vient condamner l'orgueil de la caste sacerdotale, les Sadducéens, entre autres. La parole de Jésus est encore plus cinglante à leur égard. Le royaume de Dieu se déplace loin de ce temple sadducéen. Finalement, les grands prêtres restent dans un temple sans Dieu, car Dieu confiera aux autres la gestion de ses affaires. Alors réfléchissons quelques instants en pensant à nous-mêmes. Les ténèbres spirituelles sont très épaisses sur les responsables. Ils ne reconnaissent pas le temps où le Seigneur les a visités. Peut-être que nous aussi, en nous enfermant dans nos habitudes de vie, de compréhension, en nous fermant à la nouveauté de l'Esprit Saint, au souffle nouveau de l'Esprit, en nous enfermant dans des schémas verrouillés, peut-être nous fermons-nous à l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur ait pitié de nous et nous aide à ne pas nous enfermer dans nos prisons mentales. Qu'il nous rende réceptifs à l'action de son Esprit pour que nous reconnaissions le temps où notre Dieu nous a visités. Amen. Nous sommes le soir, la journée a été bien agitée, le Christ seul est resté maître de lui. On ne peut s'empêcher de penser à l'accueil respectueux et aimant de Marthe, de Marie et de Lazare, parce que Jésus va se rendre à Béthanie, va quitter Jérusalem, il va passer la nuit à Béthanie. Et puis la petite troupe de disciples va aussi prendre des dispositions pour dormir. Judas, sans doute, est avec eux. Seigneur notre Dieu, nous te louons pour Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, venu pour notre salut. Nous te remercions pour ta patience envers les humains qui ont bien souvent rejeté tes envoyés, qui les ont insultés, persécutés et même qui les ont tués. Nous nous rendons bien compte que tes voix ne sont pas nos voix. Nous nous fabriquons bien souvent un Dieu qui nous convient, un Dieu à notre image. De cette façon-là, nous nous fermons à ta révélation. Viens-nous en aide par ton Esprit, afin qu'il nous ouvre, grâce à sa lumière, à la compréhension de tout ce qui concerne notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Lui qui est la pierre de l'angle, sans laquelle une bâtisse ne peut tenir. Sans lui, c'est-à-dire le Christ, le Fils, sans son œuvre, nous serions toujours et encore dans nos péchés. Mais gloire te soit rendue, parce qu'il est venu. Fais-nous grâce, afin que pendant cette semaine sainte, en cheminant avec notre Seigneur sur le chemin de la croix, nous soyons purifiés et enracinés en toi. Exauce-nous, ô Dieu notre Père, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.
L'immensité de ta grandeur montre que je ne suis rien, mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sorte. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer.
Terme de cette méditation, accueillons l'exhortation et la bénédiction de la part de notre Seigneur. Fortifiez-vous dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, qu'il vous accorde la plénitude de son esprit et vous donne de lui demeurer fidèle jusqu'à la mort. Amen.